Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La France accueille jusqu'au 7 juillet la Coupe du Monde féminine de foot. Vous le savez, RFI vous fait vivre les matchs, suivre les résultats au travers de retransmissions en direct, de rendez-vous dans les journaux, dans les magazines. Ce rendez-vous nous donne l'occasion d'évoquer cette compétition aujourd'hui dans Priorité Santé, le sport au féminin, en nous arrêtant sur la physiologie, le mental de la femme sportive, de parler des ressources à mobiliser pour tirer sur le plan de la santé le meilleur profit d'une activité sportive. Et nous allons nous interroger sur ce qui distingue la compétition féminine des épreuves au masculin. Déterminer s'il existe des disciplines davantage adaptées à la morphologie féminine ou encore dans quelle mesure l'activité hormonale peut avoir un impact sur les performances. On peut également se demander quel est ici et ailleurs le regard porté sur les femmes sportives, découvrir l'entraînement adapté à ses goûts et à son état, car marcher, courir, danser, pédaler, grimper, nager, c'est une hygiène de vie, c'est un outil de prévention santé, un appui pour l'estime de soi et le bien-être. Et si vous avez une question à nous poser sur le sport, l'activité physique au féminin, notre numéro, le 33 84 22 75 75. Sport au féminin, aujourd'hui dans Priorité Santé. Et avec nous en studio, trois invités. Professeur Jean-François Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes et au Centre d'investigation en médecine du sport Hôtel-Dieu. Vous dirigez l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Avec nous, Anaïs Bouillon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes socio-historienne du sport, professeur des universités à l'UFR STAPS de l'Université Paris-Sud. Et avec nous, Christine Aubert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du club de football féminin d'ici les Moulineaux. On va retrouver tout à l'heure, nous l'avons enregistré il y a environ une heure, la triple championne du monde de judo, Clarisse Agbe-Nienou, qui milite justement pour le sport au féminin. Et à la veille du colloque PAL Sud sur le paludisme organisé à Paris, on va retrouver en fin d'émission le docteur Michel Cotte, médecin épidémiologiste, directeur de recherche à l'IRD, Institut de recherche et de développement, pour aborder la question des traitements à base d'artémisia et sur la polémique associée à la tisane à base d'artémisia annua.
Priorité santé sur RFI.
Coupe du monde féminine de foot, buteuse, défenseuse, gardienne. Est-ce que c'est pas un premier signe, Anaïs Bouillon, d'avoir à s'interroger sur les termes, la correction des termes à employer? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inédit quand on doit spontanément parler de certaines fonctions sportives au féminin. C'est pas encore passé complètement dans le vocabulaire.
Surtout dans le domaine du foot, parce qu'on sait que c'est une discipline dite de tradition masculine, et les femmes ont eu beaucoup de difficultés pour y accéder. Par exemple, le régime de Vichy. Elles en font, en fait, je pense que c'est important de dire qu'elles font et elles pratiquent le foot depuis les années 1920. Elles se sont organisées contre les résistances à l'époque qui étaient notamment médicales, mais masculines. Et donc, elles se sont organisées et elles ont été soumises à de nombreux freins médicaux, notamment. Et donc, du coup, c'est pour la raison pour laquelle peut-être ces termes ne sont pas systématiques et on n'a pas l'habitude de les entendre.
Ils ne sont pas encore automatiques. Christine Aubert, vous êtes présidente, là, il n'y a pas de souci. Présidente du foot féminin d'ici, hein, comme ici les Moulineaux, c'est ville voisine de Paris, où nous sommes en ce moment, c'est là que se trouve RFI. Christine Aubert, ancienne joueuse, là, on est habitué. Aujourd'hui, vous dites quoi? Entraîneur?
Entraîneuse, moi j'ai pas de souci avec ça. Non, j'ai pas de souci avec ça. Je pense que, enfin, faut se retirer toutes ces barrières là. Faut rester un peu simple. Les gens ont l'habitude d'entendre entraîneur, entraîneuse. C'est passé dans un vocabulaire et je pense que il y a pas de connotation, à avoir par rapport à ce terme-là.
Avec tout ce qui se dit là depuis que cette Coupe du Monde féminine a commencé, vous dites pas un peu les gens débarquent sur la planète foot féminine parce que vous y êtes depuis longtemps? longtemps. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé ou véritablement aujourd'hui c'est un coup de projecteur exceptionnel?
Actuellement c'est un coup de projecteur exceptionnel. Hein. On a une médiatisation autour de la Coupe du Monde qui est très importante. Après effectivement ça a évolué, on le voit, vous en parlez très bien, 1920, premier match international, France-Angleterre devant, 20 000 spectateurs, enfin c'était énorme. Après il y a la guerre, ça s'arrête. Reims, les pionnières, voilà, on évolue dans des conditions, pour ma part quand j'ai évolué en 80, dans des conditions qui étaient pas celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui ça se professionnalise de plus en plus, donc ça évolue.
Et ça change justement de jouer quand finalement un sport intéresse le public, ça donne une motivation différente ou pas?
Ça donne un éclairage et puis une motivation différente et puis ça permet aussi au club de se structurer, je pense aussi, pour montrer une image différente de ce sport et des sports en général. Je pense que cette médiatisation autour du football amènera aussi une médiatisation autour du sport féminin et je pense que c'est une bonne chose pour nous, les femmes.
Alors, compétition, visibilité, on connaît bien sûr les risques pour la santé associés à la sédentarité, professeur Jean-François Toussaint, mais c'est une réalité, les femmes aujourd'hui font moins de sport que les hommes, ça se compte même, c'est statistique.
Oui, absolument, à la fois sur le domaine de l'activité quotidienne, en routine tous les jours, et sur l'ouverture à la compétition et donc du coup la participation, c'est à peu près 2 licenciés masculins pour une licenciée féminine. Donc on a dans la plupart des sports, quand on monte progressivement de plus en plus haut, une difficulté de plus en plus importante sur lequel certaines instances tentent de lutter. On voit que le CIO, par exemple, pour les Jeux Olympiques, décide depuis plusieurs années d'ouvrir de plus en plus aux compétitions mixtes, par exemple, qui vont faciliter et surtout de mettre le même nombre et les mêmes épreuves à l'offre sur le plateau, y compris d'ailleurs sur les disciplines artistiques qui étaient, elles, parfois plus souvent féminines. La natation synchronisée offre un duo maintenant, mixte, et cherche à avoir 5000 inscrits hommes pour 5000 inscrites femmes. Et donc avec un total de 10 000 athlètes, toutes les Olympiades cherchent de plus en plus à venir vers ces questions de parité pour offrir au plus haut niveau l'image d'une égalité de possibilités. Et c'est bien vers ça qu'il faut comprendre l'ouverture et les bénéfices que le sport peut apporter aux unes comme aux autres.
Alors, femmes et sport, professeur Toussaint, est-ce que la médecine sportive s'y intéresse en tant que telle? Est-ce qu'on travaille justement sur ce rapport à la physiologie, à l'anatomie, à la morphologie?
Oui, absolument. Il y a des quantités de différences qui sont présentes, que l'on constate. On a eu d'énormes difficultés à les comprendre. On a eu des interprétations phénoménales. Le président, Anaïs le rappelait, président de l'association britannique médicale, donc la plus importante de l'époque en 1887, rappelait que c'était pour l'amélioration de la race humaine, qu'il fallait absolument que les femmes ne soient pas représentées dans le sport. Et on se rend compte un siècle après que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que même pendant une grossesse, on va continuer d'avoir des effets positifs qui seront bons pour la santé de l'enfant à venir, mais non seulement de l'enfant pendant son développement, mais même de l'enfant à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'on va prévenir les maladies qu'il va rencontrer. On lui donnera plus de force simplement parce que le fait que la mère, dans des circonstances qui sont bénéfiques au développement embryonnaire et fœtal, puisse lui conférer toutes ses qualités.
Morphologie, physiologie, on va parler du mental aussi hein, pas mal tout à l'heure, et on va aborder ces trois aspects. Je vous propose tout de suite d'écouter la voix d'une femme, c'est celle de Florence Artaud, navigatrice disparue en 2015 dans un accident. Florence Artaud, première femme victorieuse de la route du Rhum, un transatlantique à la voile en solitaire en 1990, une femme dans une compétition mixte. En réalité, une compétition d'hommes.
Les bateaux étaient beaucoup, beaucoup plus durs. Moi, j'avais un kata de 24 mètres 50. Ma grand voile, elle faisait 200 kilos. Et j'avais pas d'enrouleur. J'en ai jamais autant chié, il n'y a pas d'autre mot. Avec la technique qui a évolué aujourd'hui, un bateau de 31 mètres ou de 40 mètres, il n'est pas plus dur à manier que nos trimarans ou nos katas de 26 mètres à l'époque. Je pense que c'est pas un métier de femme. C'est un univers qui est rude, qui est dur. Et puis surtout, où on est tout le temps sur les mers, en tout cas à mon époque, on n'avait pas de maison, on n'avait rien, on avait des bateaux, on était tout le temps sur l'eau. Moi, j'ai fait ma fille après à 36 ans, quoi. Avant, j'ai pas eu une vie de femme, j'ai une vie d'aventurière.
La voix de Florence Artaud, saisie par nos confrères de l'AFP en octobre 2014. Professeur Jean-François Toussaint, elle met en avant, la navigatrice, cette notion de force physique. Là, évidemment, pour certaines disciplines, on ne peut pas passer à côté.
C'est à la fois un magnifique témoignage hein, et un grand hommage que vous lui rendez. C'était une des plus belles victoires dans la Route du Rhum. Bien eu des magnifiques, hein, dès la première et jusqu'à la dernière dans la compétition qui était engagée, mais celle-ci reste vraiment comme une marque et une démonstration en même temps que malgré la différence de qualité physique, l'engagement, l'engouement, la détermination que Florence Artaud avait mis dans sa préparation, dans la négociation qu'elle avait eue sur l'ensemble des possibilités que lui offraient ses sponsors à l'époque et la volonté qu'elle avait mise en place permettait justement de dépasser ces différences. Le fait que ce soit sur des bateaux beaucoup plus difficiles à manier que les bateaux actuels, même si dans la taille, elle le rappelait, finalement, on atteint les limites à chaque fois des capacités humaines et on voit les risques qu'encourent les navigateurs qui continuent d'être en difficulté, navigateurs et navigatrices. Mais cet aspect-là est un des plus beaux éléments de l'engagement, justement, qui mettait Florence Artaud et que continuent à y mettre les grandes
navigatrices,
les athlètes, de façon générale, au-delà même du sport. On le voit aussi sur des sports extrêmes en alpinisme ou dans d'autres domaines.
Alors, une place longue à se gagner, justement. Pierre de Coubertin, père des JO, connu pour l'important s'être participé. D'autres phrases sont restées moins célèbres, et pour cause. En 2012, il dit « Une Olympiade femelle serait une pratique inintéressante, inesthétique et incorrecte. »
En 1912, je pense.
1912, oui, ouais. Oui, c'est ça, 1912. Anaïs Bouillon, à partir de quand cette pratique, on peut dire, est devenue normale? Est-ce qu'il y a eu des va-et-vient dans l'histoire où, finalement, à certains moments, on voyait les femmes pratiquer des activités sportives ou du moins des activités physiques et que ça passait? Est-ce qu'il y a eu des retours de bâton un peu liés, d'ailleurs, au contexte politique et historique?
Ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que de la même façon qu'on dit que les femmes ont toujours travaillé, elles ont toujours pratiqué des activités physiques et sportives. Et je pense que ce qui est récurrent et ce qu'on retrouve, c'est que les sportives sont soumises à une injonction, à des injonctions contradictoires et paradoxales. Moi, je le résumerais par ce qu'a dit Jean-François Toussaint. Faites du sport pour être de bonnes, à l'époque, fin 19e, début 20e, pour être de bonnes mères, robustes, suffisamment solides, pour transmettre les caractères acquis aux générations futures, pour être en santé, pour lutter contre les fléaux de l'époque, la sédentarité, et donc des fléaux très actuels, mais demeurer femme avant tout, donc potentiellement mère, et rester dans les critères normatifs de la féminité.
Donc aussi un combat qui se joue sur plusieurs terrains sans arrêt, professeur Toussaint.
En même temps, on voit que contre l'avis de Pierre de Coubertin, la première championne olympique date de 1900, c'est-à-dire 12 ans avant ce qu'il va dire, c'est-à-dire contre lui-même la volonté qu'il avait de les mettre de côté. Charlotte Cooper est la première championne olympique en tennis aux Jeux de Paris en 1900.
Christine Aubert, les filles que vous entraînez, ces petites filles, c'est qui leurs idoles? C'est Griezmann Mbappé ou Wendy Renard ou Amandine Henry?
Bah écoutez, effectivement, quand on leur posait la question avant, c'était Griezmann, Mbappé et encore aujourd'hui, mais je veux dire que là, avec cette Coupe du Monde, voilà, on inverse les choses, les tendances. Aujourd'hui, je peux leur parler de Wendy Renard ou Amandine Henry, et il y a des noms comme ça qui restent.
C'est important de pouvoir aussi se fixer sur des images.
C'est important. Donc, du coup, enfin, effectivement, il y a un album qui est sorti pour la Coupe du Monde féminine là de football, et j'en fais vraiment la promotion parce que ça leur permet de s'identifier, ça leur permet de connaître les équipes.
Le fameux album avec les vignettes autocollantes dont on ne citera pas le nom, c'est ça?
Voilà, exactement. J'ai pas osé le citer.
Existe depuis qu'on est petite, donc
ouais, voilà. Mais exceptionnellement, enfin c'est rare qu'il soit au féminin. Et pour cette Coupe du Monde, voilà, l'équipe de France est représentée évidemment, donc on peut coller ces images avec les féminines dessus, et ça leur permet de connaître et de s'approprier cette Coupe du Monde aussi, et de regarder, et évidemment pour la saison prochaine, de me citer des noms au féminin de ces pratiquantes et de ces joueuses de l'équipe de France.
Est-ce que les petites, quand elles viennent, elles se posent justement la question, je vais jouer au foot comme un garçon, ou c'est quelque chose qui est complètement dépassé, on n'en est plus là?
Non, on en est. Enfin, moi, ça a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je retrouve des petites qui vraiment. Alors, pour le coup, parfois, hein, genre, j'ai eu une maman encore la semaine dernière qui me disait, ma fille, ça fait 2 ans qu'elle veut jouer au foot. On voulait pas. Voilà. finalement, on y vient parce qu'elle veut vraiment jouer au foot. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a des enfants, des petites filles qui insistent vraiment auprès des parents pour pratiquer, même si les parents ont un frein. Elle continue de vouloir et de s'inscrire dans cette démarche. Et puis, il y a des petites filles qui veulent effectivement montrer aussi aux garçons dans la cour de récréation qu'elles peuvent jouer. Et elles veulent apprendre pour leur montrer. Et ça, moi, je trouve que c'est un bon élan qu'on puisse donner aujourd'hui à l'émancipation de ces petites filles, finalement, qui s'approprient le ballon et qui vont apprendre les règles, le jeu, pour pouvoir, dans la cour de récré aussi, montrer qu'elles savent jouer.
Alors, parmi les stéréotypes, il y a des stéréotypes, on va dire, qui sont physiologiques, professeur Jean-François Toussaint. Certains disent, argumentent en disant que certaines parties du corps féminin présentent des particularités, des particularismes qui risquent de compliquer la pratique. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
À la fois que ces différences sont non niables, elles sont présentes et elles différencient évidemment le corps d'une femme d'un corps d'un homme, et en même temps qu'il y a des interprétations qui font que des limites vont arriver très vite. L'un des problèmes est celui de la compétition mixte lorsque ces différences sont super importantes dans le résultat. Je pense par exemple au sport de combat. Si on mettait des disciplines mixtes, alors là, les écarts de, globalement, 10% du gabarit féminin, puisque dans l'espèce humaine, les hommes sont 10%, entre guillemets, et de façon très, très simplificatrice, mais plus grand et plus puissant, on se retrouve à ce moment-là avec un risque majeur qui serait celui de la mise en danger des pratiquantes féminines sur des conditions risquées, comme celle du combat dont je parlais tout à l'heure. Pour le reste, celle des différences qu'il peut y avoir sur une expression justement en sport mixte, ça a été le cas par exemple du volleyball dans les années 70, le volleyball professionnel américain était mixte, 3 hommes et 3 femmes, et dans lequel on a des effets qui sont par contre à tabler en fonction des puissances des adversaires. Donc les hommes sur les mêmes principes ou sur les mêmes postes, et avec des risques qui doivent être pris en compte, parce que là c'est plus du tout une question socioculturelle, c'est une question de différence de puissance, et on a forcément à prendre en compte les risques qui sont présents dans tous les sports et qu'il faut là encore prévenir.
Avec une adaptation à la clé en termes d'équipement, en termes d'accessoires, on n'équipe pas les femmes comme les hommes. Et ce que vous disiez par rapport à l'activité physique, est-ce qu'il y a justement certains manques en termes d'équipement sportif dans certains contextes urbains en particulier qui font que les femmes ne se sentent pas forcément appelées vers le sport alors qu'elles pourraient l'être ?
On le voit très bien à la fois entre les adolescentes et les femmes adultes en France, ou quand on compare les Françaises et les Néerlandaises ou les Danoises. Quand on fait ces enquêtes, on voit très bien qu'il y a à la fois une envie chez les jeunes filles de participer au sport pour les impacts sociaux qu'on va avoir, la rencontre des autres, et également pour les femmes adultes sur les questions du bien-être et de santé, et beaucoup moins celles de la compétition, qui sont beaucoup plus masculines en général, hein, ces aspects-là. Et à l'inverse, on voit que quand on la compare aux pays du Nord, de l'Europe par exemple, la disposition d'équipements, par exemple, pour les pistes cyclables sécurisées, c'est une activité physique de routine qui est extraordinairement importante. Les mobilités actives dans ce temps imposé du transport quotidien fait que lorsqu'on a à disposition, eh bien, les femmes sont beaucoup plus actives que ne le sont les Françaises. Et les Françaises le disent, si on avait à disposition dans l'ensemble de nos possibilités de chaque jour, à ce moment-là, on serait forcément plus actives. Donc, il faut mélanger l'ensemble de ces points-là pour développer des politiques qui puissent promouvoir une activité physique bienveillante pour la santé.
Christine Aubert, à 15 ans, vous jouez au PSG en Division 1, c'est ça ?
Oui.
Comment vous y êtes arrivée ? Comment vous avez eu ce goût ? Et j'ai une autre question. Qu'est-ce que vous avez ressenti en termes de physique de corps ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre allure, dans votre corps et dans votre mental ?
Dans mon corps, rien de spécial. J'étais une sportive et du coup une sportive de haut niveau. Donc, enfin, pour moi, c'était ma passion avant tout. Après, dans le mental, effectivement, ça m'a beaucoup servi, surtout pour par la suite avec les soucis de santé que j'ai eu. Ça m'a forgé effectivement un caractère qui a fait que j'ai pu me sortir de beaucoup de d'issues qui étaient pas forcément les plus positives. Donc, oui, le sport, c'est un mental. Oui, c'est à quelque niveau qu'il soit. Hein. Vous parliez de l'accès pour toutes. Nous, à ICI, ma philosophie, c'est de proposer le football pour toutes, loisirs, débutantes, jeunes, pas jeunes, élite, pas élite. Et c'est comme ça que j'ai créé une équipe de foot loisirs santé où les femmes viennent une fois par semaine taper dans le ballon avec un éducateur. Mais elles ont toujours aimé ou elles ont toujours voulu apprendre, sauf que avant elles n'avaient pas la possibilité parce qu'il y avait des freins, peut-être familiales, peut-être personnels. Et l'idée, c'était de se dire, le week-end, elles peuvent pas. Elles ont les enfants, elles ont les courses, elles ont tout ça. On va le proposer en semaine. Un soir, elles ont une heure et demie et elles viennent et elles pratiquent et ça dure. Et un critérium que j'ai lancé qui n'existait pas, un critérium inter-entreprise féminin, où aujourd'hui on a 14 équipes de salariés qui pratiquent et qui se retrouvent autour d'un ballon voilà tous les 15 jours et qui font des matchs. Alors loisirs avec des débutantes, mais avec cette idée de gagner derrière, mais à leur vitesse. Et c'est l'accès, je pense, qu'il faut sur lequel il faut réfléchir aussi pour que les femmes pratiquent de plus en plus et que le s'inscrire dans un club, se licencier, soit pas forcément un frein et qu'on ne le voit pas uniquement que comme une compétition, mais juste comme un encadrement de qualité.
On reste ensemble là, on continue de parler au sport, du sport au féminin dans Priorité Santé, activité au quotidien aussi, on vient de l'entendre, et puis bien sûr des parcours d'exception.
RFI.
Bonjour Clarisse Agbegnénou.
Bonjour.
Vous êtes triple championne du monde, vice-championne olympique de judo. On a enregistré cet entretien il y a une trentaine de minutes. Vous êtes en plein préparatif des championnats d'Europe. Et ce sport au féminin, eh bien, c'est une question qui vous tient particulièrement à cœur. En janvier, Clarisse, vous étiez la marraine de la journée internationale du sport féminin.
C'est ça, j'ai tenu vraiment à être la marraine parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je sais que du coup, je suis une femme et je suis la première à pouvoir en parler. J'ai eu les mêmes problèmes auparavant, surtout en faisant un sport comme le judo. Donc c'est vrai que c'était une chose vraiment sur laquelle je pouvais discuter, parler et aider mes semblables.
Ce rapport au corps, votre rapport même à la santé, est-ce que c'est quelque chose aussi qui est tous les jours dans votre tête, dans votre esprit, y compris quand vous êtes en compétition, Clarisse Agbegnénou?
Bien sûr, parce que comme on dit souvent, manger, bouger. Donc c'est vrai qu'à la base, le sport, c'est pour prévenir certaines maladies ou pour prévenir le corps. Donc c'est vrai qu'il faut faire du sport. On ne dit pas de haut niveau parce que c'est vrai que ça aussi, c'est bon et c'est mauvais côté. Mais un tout petit peu pour pouvoir entretenir son corps, se sentir bien et voilà, avoir une bonne hygiène de vie. Donc c'est vrai que du coup, il faut sensibiliser un petit peu tous les jours.
Justement, cette hygiène de vie, Clarisse, elle passe par un travail quotidien avec des praticiens, médecins du sport, kinés, nutritionnistes. Il y a toute une équipe autour de vous?
Exactement, parce qu'après nous, c'est vrai qu'on est au plus haut niveau. Et donc tous les jours, on doit aller faire... Là, du coup, j'ai un bilan médical dentaire, parce que c'est vrai qu'on doit savoir si on a des choses qui peuvent ne pas aller, comme on part aux Jeux européens dans quelques jours, enfin quelques semaines. Du coup, si on a un problème dans l'avion, on va mieux prévenir. Donc, c'est vrai que voilà, on a une belle équipe. À l'ICEP, on a tout ce qu'il faut. Il y a des bilans médicaux qui sont faits deux fois par an. Du cœur, de la poids, taille, les dents. Regarder un petit peu tout ce qui peut se passer. Psychologique, c'est très important parce que c'est vrai qu'il faut un bon suivi pour pouvoir aller sur les plus hautes marches.
Alors, il y a la compétition et il y a bien sûr aussi la question de la représentation, cette question de l'égalité chez une femme sportive, y compris au sommet de sa spécialité, comme c'est votre cas. On doit gérer sa santé au féminin. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle, on touche là à l'intimité? Je parle simplement de la féminité, le cycle menstruel, tout ce qui va avec. Est-ce que c'est quelque chose qui intervient dans votre vie professionnelle?
Oui, parce que c'est vrai que nous, voilà, on est des femmes, mais c'est vrai qu'on a, voilà, on a notre mensualité, c'est très important. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça nous perturbe un petit peu dans notre pratique sportive, parce qu'on se sent mal au ventre, on se sent pas très bien. Donc il faut prévenir, c'est bien de pouvoir le faire. Ensuite, on sait que quand on est une femme, faire du sport ou d'autres choses, c'est très compliqué, parce que après, quand on a des enfants, on préfère s'en occuper ou on ne sent pas trop bien. Mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre soin de notre corps. Je peux dire que c'est culturel. C'est culturel de dire que la femme reste à la maison alors que ce n'est pas vrai du tout. La femme peut prendre soin d'elle, peut aller au sport. Et c'est vrai qu'en plus, après, que ce soit une grossesse ou dans la vie normale, mais la femme doit prendre soin d'elle parce que c'est vrai qu'elle a plus de charges que les hommes au final.
Et des grandes compétitrices l'ont prouvé, hein, que ce retour au sport après était tout à fait possible. Dans votre cas, hein, un parcours de femme assez extraordinaire, parce que certainement beaucoup d'auditeurs l'ignorent. Vos débuts dans la vie de petit bébé-fille ont été assez singuliers en termes de santé. Vous étiez née grande prématurée. Aujourd'hui, vous êtes grande championne. C'est vraiment une épreuve de la vie et une épreuve aussi dans son corps et dans son esprit.
Oui, c'est vrai que... Je pense que si tu veux quelque chose, ben tu peux. C'est le bon ton, bon vouloir. C'est vraiment à toi de le faire. Et je pense qu'à ce moment-là, en étant prématurée et en ne respirant pas, j'ai voulu vivre, j'ai voulu savoir comment allait être ma vie. Je me suis battue. Et voilà, aujourd'hui, où j'en suis. Et je ne m'arrêterai pas là parce que je sais que j'ai encore plein de choses à prouver et à avoir.
Les filles doivent croire en elles. C'est ça pour vous, le sport au féminin ?
Bien sûr, elles doivent croire en elles parce que on a encore plus de force que les garçons. On est très intelligente et notre intelligence fait qu'on peut développer encore plus de qualité.
Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé, Clarisse Agbenienou. Très bonne journée à vous.
Oui, je vous en prie, merci à vous.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
On retrouve nos invités en studio, on l'a entendu, hein, cette mise à l'épreuve physique, force mentale. Christine Aubert, tout à l'heure, vous l'avez évoqué rapidement, vous avez eu des problèmes de santé très importants. Ce mental de sportif, comment il vous a aidé? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était l'estime de soi, le contrôle des angoisses, savoir où on va, qu'est-ce que c'était?
C'est le combat face à une difficulté, comme on peut être face à l'approche d'une compétition, par exemple. Hein, c'est se recentrer sur soi et puis voir comment on va appréhender la compétition. Bah là, c'était un peu la même chose vis-à-vis de mon cas personnel. Donc c'était comment j'allais appréhender ce souci médical et comment j'allais pouvoir gagner ce challenge de rester en vie, tout simplement, par exemple.
Alors, ce mental qui a plutôt, Anaïs Bohuon, était utilisé pour dévaloriser les femmes, hein, ces petites choses fragiles. C'était ce qui était plutôt compris quand on les présentait de cette façon caricaturale. Et on voit bien à l'inverse, à travers les témoignages de femmes sportives, que c'est, on va dire, que c'est tout l'inverse.
Ah oui, moi, souvent, quand je vois des femmes exceller à haut niveau, on pourrait y revenir, mais on peut leur reprocher de se rapprocher dangereusement des morphotypes masculins ou des performances masculines. Et très vite, on leur associe des avantages physiques supposés. Et plus je travaille sur ces questions, plus je me rends compte que ces femmes exceptionnelles ont avant tout une force mentale exceptionnelle, avant même d'avoir des avantages physiques supposés.
Et on va tout de suite donner la parole à une auditrice de l'émission. Une auditrice que l'on prend tout de suite en ligne, qui est avec nous au Sénégal, à Dakar, c'est Odomé. Bonjour Odomé.
Allô, bonjour Caroline.
Alors c'est un témoignage, hein, avec vous, on vous écoute.
D'accord, alors moi j'ai commencé à pratiquer du sport il y a 4 ans. Et lorsque j'ai changé de pays, avant je vivais en Espagne à Dakar, à Madrid, et puis finalement je suis arrivée à Dakar pour des questions professionnelles. J'ai commencé à pratiquer du sport assez régulièrement, d'abord pour mon bien-être intérieur, comme anti-stress, pour avoir un peu plus de tonus, pour stabiliser mon poids et puis pour travailler mon auto-estime, enfin mon estime de... voilà. Et ça m'a beaucoup aidé pour avoir plus de concentration, parce que je suis enseignante et on a toujours besoin de ça. Et ça me donnait aussi une sensation de n'être jamais assez épuisée en fait. Et c'est vraiment pas des clichés du tout, mais ça m'a permis d'avoir une forme olympique et d'aller toujours de l'avant.
Dans quelle structure est-ce que vous pratiquiez, Odomé ?
Alors, je pratique dans une salle de sport pour des questions contextuelles. Lorsque j'étais à Madrid, je pouvais marcher sans aucun problème. Le climat aussi était favorable. Or, à Dakar, comme il fait assez chaud et que les routes ne sont pas toujours... propice, il n'y a pas de trottoir qui me permette de marcher en toute sécurité. Donc j'ai préféré travailler dans une salle de gym.
On voit sur la corniche à Dakar tous ces garçons à la tombée du jour qui s'entraînent. Peu de femmes sur place. Comment est-ce que vous expliquez comme ça qu'il y a une absence de mixité dans cette pratique sportive ?
Bon, alors ça va être des questions peut-être culturelles ou personnelles, je pense. Je pratique mon sport dans une salle de gym. Je sais souvent aussi que sur la corniche, je vois quelques femmes.
Mais elles sont quand même assez rares.
Elles sont quand même assez rares, certes. Mais je crois aussi que ce sont des questions liées aux situations, au contexte personnel. Parce que c'est une question d'organisation quand même aussi. les femmes ont toujours généralement tendance à renoncer à leur bien-être au profit de la famille, du travail et des obligations quotidiennes, je pense. Hein. Donc, mais en général, dans la salle de gym où je vais, il y a des hommes et des femmes et chacun travaille sans aucun problème.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Odoméen. Merci de nous avoir appelé de Dakar au Sénégal. Autre témoignage, là, on va un peu remonter dans le temps. 2013, c'est Martina Navratilova, hein, tout le monde connaît son nom, immense championne de tennis. Elle évoque le parcours d'une autre championne, Serena Williams, qui avait à l'époque quelques soucis de santé.
You can't ever count out Serena Williams.
On peut toujours compter sur Serena Williams. Elle a remporté l'Open d'Australie il y a quelques années en sortant de nulle part. Elle n'était pas en grande forme physique, mais elle a réussi à remporter le tournoi. Pour Wimbledon, nous verrons dans quelle forme elle sera. Elle s'est entraînée pendant quelques mois, elle a eu quelques problèmes physiques, donc espérons qu'elle soit en bonne santé. Ce serait génial de la voir en forme, mais je pense que la plupart des joueuses ne veulent pas voir cela se produire. Parce que dans ce cas, elles seront à nouveau critiquées sur la profondeur de leur jeu. Mais vous savez, si Serena joue, c'est qu'elle doit se sentir prête. Il y a un problème dans le tennis féminin en ce moment. Personne ne domine vraiment le circuit. Nous n'avons aucune joueuse dominante. Chaque tournoi du Grand Chelem est très ouvert depuis maintenant 3 ou 4 ans. Et cela fait du mal à ce sport. Il n'y a pas de rivalité. Il nous manque une ou deux joueuses pour dominer le circuit. Serena Williams aurait pu être l'une de ses joueuses si elle était restée en bonne santé.
Heureusement, l'avenir l'a démenti. Hein, Martina Navratilova, 18 titres en simple en grand chelem. Serena Williams, 23 titres. Ces deux femmes, elles ont quelque chose en commun. C'est cette fameuse, à la fois bien sûr la performance, la longévité. Et je dirais aussi autre chose, c'est les critiques du milieu sportif masculin. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu entendre sur certaines joueuses de tennis, professeur Toussaint? Je ne sais pas si je peux vous faire commenter cette chose spécifiquement, mais il y a vraiment, on dit bienvenue aux femmes, mais faut quand même avoir le dos large. Hein.
Faut avoir le dos large, peut-être, oui. En même temps, on voit que le tennis a été l'un des premiers sports à mettre à égalité de salaire, à égalité de rétribution, même si c'était pas à égalité de couverture médiatique, quoique, même si c'est pas à même niveau d'engagement, et il y a aucune raison, là, pour le coup, de ne pas faire de match en 5-7, dans le tennis féminin par rapport au tennis masculin, aucune, si ce n'est celui de la médiatisation, justement, et donc du pari que l'on fait sur l'aspect commercial du spectacle sportif.
Ça veut dire, est-ce que les gens vont rester aussi longtemps devant leur écran, par exemple, à suivre le match?
Et on voit que la Coupe du Monde de football féminine en ce moment est en train, justement, de faire voler en éclats tous ces critères, puisque leur premier match avec 12 millions de spectateurs et de spectatrices est au niveau de ce que le premier match de l'équipe de France de football l'année dernière avait pu montrer. Et surtout, toutes les autres équipes, le Cameroun, le Canada, le Japon, vont avoir les mêmes impacts. Et ça, pour le coup, ça rentre dans une autre considération des fédérations internationales et des organisations, c'est celle de quels sont les retours sur investissement de la mise en lumière du sport féminin élite. Et ça, on revient
à des stricts
équilibres entre ce qu'est le sport masculin et le sport féminin dans la partie économique qui devient, qui s'organise, qui se professionnalise avec très vite les mêmes critères.
Alors, égalité, rivalité, différence, on va parler d'un sujet de l'actualité sportive. On en a pas mal entendu parler ces derniers mois, ces dernières semaines. Je vais essayer de résumer, vous m'interrompez si j'ai une bêtise. Donc, c'est l'hyperandrogénie, illustration de l'épreuve de force engagée entre l'athlète sud-africaine Caster Semenya et la Fédération internationale d'athlétisme. Le règlement de la fédération privant la double championne olympique du 800 mètres du droit de concourir, eh bien, ce règlement, il était suspendu provisoirement par le tribunal fédéral suisse. L'athlète avait fait appel devant cette juridiction. Voilà, c'est le point du litige. Professeur Jean-François Toussaint, petite définition pour commencer. L'hyperandrogénie, c'est quoi exactement?
Alors, d'abord, le premier point pour ouvrir ce débat, c'est surtout celui du respect de la dignité de chacune et de chacun. C'est surtout celui de comprendre les choses, tant les déterminants biologiques que les déterminants sociaux et culturels. Il faut avoir un équilibre dans l'ensemble de ces points pour en arriver à savoir ce que ces différences biologiques vont induire chez en particulier les athlètes hyperandrogènes, c'est-à-dire celles qui vont avoir un phénotype plutôt féminin, mais avec une prédisposition liée à des taux biologiques qui vont montrer une hypersécrétion d'hormones androgènes. La plus connue d'entre elles est la testostérone, qui va, elle, contrôler celui de l'activité des organes sexuels, en particulier masculins, mais qui est aussi un des précurseurs de toute la série des œstrogènes. Donc, dans toute la déclinaison qu'on va avoir de ces hormones stéroïdiennes, il va y avoir une complexité biologique dans laquelle il faut simplifier les choses et expliquer les choses.
Justement, pour expliquer, j'ai deux petites questions. Je vous demande d'y répondre brièvement. Est-ce qu'un certain nombre de ces informations sur ces caractères sexuels, professeur Toussaint, ne relève pas du secret médical ?
Absolument. Et l'immense difficulté aussi dans ce domaine est de trouver un contexte qui permet de comprendre ce que sont les différences, les prédispositions masculines, et effectivement, on ne pose pas la question à Bolt de savoir pourquoi il a 20 mètres d'avance sur le 200 mètres en 2008 et 2009, lorsqu'il établit ses records du monde. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que la statistique est de plus en plus en faveur des femmes qui bénéficient de ces positions intermédiaires sur le plan biologique, puisqu'il y a des recouvrements entre le phénotype masculin et le phénotype féminin. Et ça, il faut comprendre ce que ce million de personnes dans le monde, globalement, qui sont situées entre le sexe masculin et le sexe féminin, qui ont des phénotypes qui sont intermédiaires, tant sur la sécrétion de testostérone, tant sur les organes sexuels primaires ou secondaires, que sur l'ensemble de ces éléments. Mais grosso modo, il y a 100 fois plus de records nationaux en athlétisme qui sont détenus par des personnes qui présentent ce profil qu'il n'y en a dans la population mondiale. Donc ce rapport de 100 montre qu'il y a de plus en plus une fréquence, une recherche de l'élite féminine sportive vers ce phénotype. Et ça pose d'immenses questions que l'IAF a du mal à résoudre et que le TAS vient de donner transitoirement comme difficulté à résoudre.
Professeur Toussaint, est-ce qu'on mesure le taux de testostérone chez les hommes ?
Alors, la réponse est non, pour la simple raison que ce que l'on voit actuellement, c'est que les plafonds des performances masculines et féminines sont à peu près fixés depuis 20 ans à 30 ans, et que les valeurs de testostérone ou d'androgène de façon plus générale montrent que la présence dans les records nationaux féminins, ce que je vous disais, d'un facteur 100, est beaucoup plus en train de tirer la recherche d'une super performance féminine vers des femmes qui présentent.
Mais comment est-ce qu'on peut juger justement que ces hommes n'ont pas un niveau d'hormones qui les avantage si on ne le teste pas ?
Parce que ça se joue pas seulement sur le niveau
d'hormones. Mais on le sait pas si on l'a pas mesuré.
Si, si, on peut l'avoir puisque ça a été fait sur, en particulier, l'étude de Stéphane Bermond qui montre que l'ensemble de ces valeurs, la distribution masculine et féminine, a des valeurs plus faibles, en général inférieures à 5 nanomoles chez les femmes, sur des valeurs qui montent jusqu'à 30, 40 chez certains hommes, mais qu'on retrouve, effectivement. Mais ça, c'est juste un des aspects. On ne regarde pas les différences de gabarit, les différences de taille qu'il va y avoir. Or, les différences de taille, une fois de plus, on les connaît. Elles sont à 10%, ce qui va faire que les basketteuses et les basketteurs n'ont pas les mêmes tailles moyennes, les volleyeurs et les volleyeuses n'ont pas les mêmes tailles moyennes, les boxeurs et les boxeuses n'ont pas les mêmes tailles. Et ça repose la question de quels sont finalement, dans les affrontements mixtes, la difficulté ou le risque que l'on va faire prendre si l'on est dans un contexte comme celui-là.
Anaïs Bouillon, vous travaillez sur cette question précisément. Pour vous, ce n'est pas simplement une question d'hormones ?
Non, parce que pour expliquer la performance sportive, il faut prendre un ensemble de composantes. Les composantes, on l'a beaucoup vu aujourd'hui, les composantes historiques, sociales, environnementales, culturelles. Et il est important de rappeler, et c'est ce qu'elle rappelle, que Caster Semenya, puisque c'est d'elle dont il s'agit, est une femme, est née femme, et se vit en tant que femme. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on lui reproche de produire trop de testostérone que la norme statistique. Or, la question qu'on pourrait se poser, pour rebondir sur les propos de Monsieur Toussaint, effectivement, peut-être que potentiellement la testostérone permet d'accroître les performances. C'est un avantage physique supposé.
Mais non, de la même. Un avantage physique prouvé.
Prouvé. Pas par exemple sur. Enfin, en fait, ça a été prouvé selon l'étude, vous l'avez dit, de Stéphane Bermond, mais qui est très controversée. C'est-à-dire
que l'étude de Stéphane Bermond amène dans le sport un élément, la différenciation de la testostérone dans la partie différenciatrice au moment du développement embryonnaire et fœtal, elle est évidente dans tout le règne animal, humain compris.
Oui,
et ce point-là est un des éléments. non, majeur, en fait,
ce qui n'a pas pu être montré, c'est que c'est uniquement la testostérone qui permet de faire exceller ces femmes à haut niveau.
À l'âge adulte, et c'est les effets activateurs versus les effets organisateurs. C'est ça la différence. Ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est l'histoire complète de ces athlètes, et ça, l'IAF n'en tient pas compte. C'est ce que le tribunal arbitral du sport lui reproche, justement, dans ce règlement.
C'est pour ça que le règlement a été suspendu.
Absolument. Oui. Non, il n'a pas été suspendu. Il a été discuté comme non certain de sa validité, mais il a été appliqué.
Mais là, pour l'instant, en l'état, il est suspendu. C'est-à-dire que Caster Semenya est réautorisé à concourir.
Ils ont réautorisé le règlement, et Caster Semenya court sur le 3000 mètres. Pas sur
le tribunal fédéral suisse a demandé à la Fédération internationale d'athlétisme de suspendre le règlement de l'IAF sur l'hyperandrogénisme féminin. Et donc Caster Semenya est autorisé à nouveau à concourir.
Oui, mais sur la difficulté qui est celle qui est dans laquelle l'IAF ne tient compte que du taux adulte, c'est-à-dire du taux présent actuellement, alors que c'est toute l'histoire du développement qui a pris compte de la testostérone qu'il faudrait prendre en compte. Et ça, on ne le fait jamais, et c'est pourquoi ce règlement est limite. L'autre point qui est majeur, c'est celui que faisant prendre des anti-androgènes à ces athlètes, quel risque on leur fait courir sur le long terme. Et celui-là non plus n'est pas pris en compte. Et là, le TRS a parfaitement raison.
On va revenir, je suis désolée, on voit que c'est super intéressant. C'est vraiment un sujet de polémique, il y a des opinions qui divergent, mais je voudrais qu'on revienne pour la conclusion, parce que le temps passe, à justement le sujet au cœur de notre émission. Ce sport de compétition, cette activité physique, on l'a compris, on peut pratiquer les deux. Notre sujet du jour, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les femmes à mieux prendre soin de leur corps, à faire davantage d'activités physiques. Professeur Toussaint, s'il fallait dire un mot d'ordre justement pour amener les femmes dans les stades, pas simplement sur les bancs pour assister au match, mais pour vraiment s'impliquer dans cette vie sportive.
Qu'elles se fassent plaisir. C'est par le plaisir qu'on redécouvre l'activité physique ou l'activité sportive, c'est la même chose sur ce plan-là, et par le biais de l'organisation, qu'elle soit à un moment donné strictement féminine, qu'elle soit mixte, qu'elle soit dans un contexte où on va retrouver ce que le sport, ce que l'activité apporte, c'est-à-dire globalement un bien-être largement supérieur à celui de la sédentarité.
Anaïs Bouillon, est-ce que vous avez l'impression justement que cette compétition du foot féminin fait souffler un vent différent sur ce que vous avez pu étudier dans le rapport des femmes et avec le sport justement?
Oui, tout à fait. On voit que, comme on a pu le dire, c'est extrêmement suivi. Et puis on voit des femmes avec des morphotypes différents, etc. Et qu'on laisse tranquilles ces femmes et qu'on les laisse exceller et même peut-être se rapprocher très dangereusement des performances masculines.
Avec des initiatives très concrètes, hein, comme celles que vous avez décrites tout à l'heure dans l'environnement professionnel, faire venir les femmes sortir de chez elles, venez sur les stades avec nous, Christine Aubert, et c'est pas simplement pour la compétition.
Non, faites-vous plaisir, mesdames, et vraiment, si vous avez envie de découvrir un sport, quel qu'il soit, mais n'hésitez pas, et franchement, faut franchir ce pas, parce que ça fait tellement de bien, et je le vois au quotidien, que ce soit avec les toutes petites, qui ne seront pas forcément des joueuses de très haut niveau, mais qui ont juste envie de jouer. Donc allez-y, mesdames, faites pareil, quoi.
Et on le voit aussi sur le visage des joueuses, hein, de ces bleus, quand on les voit avant, après, même en interview, on va dire qu'elles rayonnent. C'est pas, alors là, pour le coup, c'est pas un cliché, mais elles sont vraiment heureuses d'être là et ça fait plaisir à voir. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Christine Aubert, présidente du club de foot féminin d'ici les Moulineaux. Anaïs Bouillon, professeure des universités à l'UFR STAPS de l'université Paris Sud. Et puis, professeur Jean-François Toussaint, prof de physiologie à l'université Paris Descartes et au centre d'investigation en médecine du sport Hôtel Dieu.
Priorité santé sur RFI.
On parle à présent du paludisme dans Priorité Santé. Le colloque PAL Sud se tient demain à Paris. L'affection parasitaire au cœur de ce rendez-vous. On va parler recherche, vaccin, résistance au traitement. Et parmi les thèmes abordés lors du colloque, docteur Michel Cotte, bonjour.
Bonjour.
Il y a l'artémisia. Michel Cotte, directeur de recherche à l'IRD, Institut pour la Recherche et le Développement, épidémiologiste. L'artémisia, eh bien, c'est une plante médicinale, hein, issue de la pharmacopée chinoise, docteur Cotte. On en entend énormément parler, notamment en France ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, déjà une première chose, hein, la substance active de l'artémisia, elle est déjà utilisée dans certaines thérapies du paludisme?
Alors absolument. Alors je crois qu'il faut bien faire la différence entre artémisia, qui est la plante, et l'artémisinine, qui est le principe actif qui a été extrait de cette plante. parce qu'en fait tout le débat tient entre ces deux éléments. Alors, Artemisia, c'est effectivement une plante qui est connue de la pharmacopée chinoise depuis très longtemps. Ça a été décrit au 3e siècle de notre ère. Et Artemisia a été un petit peu mise au goût du jour lors de la guerre du Vietnam, donc à la fin des années 60, le président de l'armée populaire du Vietnam, Ho Chi Minh, est allé en Chine populaire pour demander l'appui du grand frère chinois parce que les troupes étaient décimées par le paludisme. Et donc il y a eu un grand projet de recherche qui a été créé par Mao, qui s'appelle le projet 523, et qui s'est intéressé à de très nombreuses substances traditionnelles qui étaient utilisées, et on a trouvé cette fameuse plante Artemisia qui était efficace contre le paludisme, que ensuite les Vietnamiens ont utilisé, qui était sur la touche de la guerre.
Alors il y a un débat actuellement en France, on va en rappeler les termes rapidement, Dr Cotte, une association française, la Maison de l'Artemisia, met en avant ses vertus thérapeutiques, produit simple à cultiver, à la portée du plus grand nombre, sous forme de tisane et non pas le principe actif de synthèse. Mais justement, l'Académie de médecine a réagi, elle s'inquiète et ça inquiète également les spécialistes de la lutte contre la maladie parasitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi une telle inquiétude ?
Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a découvert les vertus de la plante Artemisia, très vite, les chercheurs chinois qui étaient sur ce projet ont extrait une substance, donc l'artémisinine, ou Qingaoshu en chinois, qui ensuite a été la base de la plupart des médicaments qui sont actuellement utilisés contre le paludisme et qui sont extrêmement efficaces. L'artémisinine, donc, est un médicament très, très efficace. Par contre, l'OMS a imposé que l'artémisinine ne soit pas utilisée pure, mais en association avec d'autres médicaments, ce qui permettait de retarder l'apparition des résistances du parasite aux médicaments.
Donc il y a bien un problème à la fois de dosage et un problème d'inquiétude face au risque de résistance.
Voilà, c'est-à-dire que la Maison de l'Artemisia donc, veut promouvoir l'utilisation de la plante entière et non pas de la substance qui est extraite pour la donner aux populations. L'avantage, c'est que n'importe qui peut fabriquer des tisanes, si vous voulez, et en particulier les populations qui sont isolées et qui n'ont pas accès facilement aux médicaments. Donc ça, c'est vraiment le côté positif de la chose. Le côté beaucoup plus compliqué, et ce qui fait qu'il y a débat actuellement avec la médecine institutionnelle en France, c'est que il est très difficile de doser une tisane. Il est très difficile d'avoir un traitement qui soit reproductible d'une prise à l'autre.
Et c'est particulièrement important pour les populations les plus vulnérables. On pense en particulier aux jeunes enfants ou aux personnes qui ont un système immunitaire déficient.
Tout à fait. Alors, pour les jeunes enfants, pour les personnes qui ne sont pas immunisées contre le paludisme, comme c'est le cas des adultes qui vivent en zone d'endémie, les quantités de tisane à boire sont relativement importantes. Et effectivement, il y a un problème d'acceptabilité, d'une part, et puis, comme je vous le disais, un problème de dosage, parce qu'on ne sait pas très bien, même si l'on prend toujours les mêmes doses de feuilles, ce qu'il y a à l'intérieur, parce que d'une récolte à l'autre d'artémisia, il peut y avoir des quantités de antipaludiques différents.
Merci beaucoup, docteur Michel Cotte. Merci d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRD. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À c'est tout ça, Maquée, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, nous allons parler des soins palliatifs avec le regard croisé de plusieurs médecins sur la situation en Afrique francophone. Et bien sûr, si vous avez un message à nous transmettre, une question à nous poser, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission ou bien sûr, appelez-nous à notre numéro 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Écoutez.